Au quotidien, avec Hélène Denis.
Bon, alors, on a de la difficulté avec notre thème ce matin, Mathieu.
Il a commencé 15 secondes plus tôt.
Ouais.
Je sais pas pourquoi. Il était content de nous voir. Il disait, alors, oui, faut se dépêcher, commençons tout de suite.
Il était pressé. Il était pressé parce que, oui, tous les deux, on est de retour de vacances. Ça a été bien pour vous, cher Mathieu.
Ouais, oui.
Oui. Et puis, pour moi aussi. Alors, bienvenue à l'émission au quotidien, chers auditeurs et auditrices. C'est Hélène Denis qui vous parle. Oui, oui, de retour après plusieurs semaines de vacances. Salutations chaleureuses. Je ne sais pas s'il est à l'écoute ou s'il est en train de dormir parce qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé cet été. Je parle de mon collègue Denis-Martin Chabot qui a occupé ce fauteuil une bonne partie de l'été 2025. Merci, Denis-Martin. Et c'est maintenant donc à ton tour de bien te reposer. J'espère qu'il va partir en vacances. Je ne connais pas sa vie, là, mais j'imagine qu'il va prendre un peu de répit, malgré que c'est quelqu'un qui dit oui à plein de choses. Hein. Il est très actif, ce Denis-Martin. Mais il faut quand même apprendre à s'arrêter un peu. Merci aussi, il ne faut pas l'oublier, Yvan Deslauriers qui a animé cette émission lors de ma première semaine de vacances. Vous étiez là encore,
oui.
Mathieu? Oui. Et puis, donc, cet été, je suis allée, entre autres, je ne vais pas me vanter.
Bon.
Non, c'est parce que c'est un lien avec ma première chanson. Je n'ai pas le choix. Alors, cet été, oui, je suis allée au Portugal. Et je commence cette émission avec une chanson qui a occupé une place de choix sur la trame sonore de ce merveilleux voyage. Et je dédie cette chanson à mes compagnons et à mes compagnes de voyage, probablement à l'écoute ce matin.
I know. back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said. I know that much is true.
C'était la chanson « True » de Spandau Ballet.
Oui, que je vais à jamais associer à ce voyage fantastique au Portugal. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y aura au menu en ce lundi 25 août? J'aurai la chance de parler avec Éric Jean, homme de théâtre, qui a créé aux côtés de Marie-Christine Léu la pièce « Fan ». F-A-O-N, une fable contemporaine sur la résilience et la mémoire. Alors, Éric Jean sera avec nous autour de 10h30 dans ces eaux-là. Et puis, la chronique Économie en compagnie de Michel Poitvin qui est de retour pour cette saison, exceptionnellement en ce lundi. Alors, voilà pour le menu et j'y vais tout de suite avec les unes de journaux. À la une du Devoir, le Canada sera toujours solidaire de l'Ukraine, alors qu'on voit Mark Carney qui salue et qui tient la main, qui donne une bonne poignée de main donc au président de l'Ukraine. En visite à Kiev dimanche, le premier ministre du Canada a réaffirmé son soutien au président ukrainien Volodymyr Zelensky, interrogé sur le type de garantie de sécurité que le Canada pourrait offrir à l'Ukraine. Il a répondu que l'armée ukrainienne devait être soutenue et qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes canadiennes. Nous serons toujours à vos côtés afin que vos nombreux sacrifices mènent à la paix. C'est ce qu'il a déclaré lors des cérémonies du jour de l'indépendance de l'Ukraine, entouré de responsables, de soldats et de dignitaires ukrainiens. Selon le professeur au Collège militaire royal du Canada, Walter Dorn, un mouvement commun du Canada et des Européens affirmant que la présence de troupes en sol ukrainien est envisageable, donnerait à l'Ukraine une position beaucoup plus forte à la table des négociations. Autre titre à la une du Devoir, les promoteurs d'un projet d'usine de GNL actif auprès de Québec, c'est Alexandre Shields qui en parle. Le gouvernement Legault refuse de se prononcer sur le méga projet de production et d'exportation de gaz naturel liquéfié que Marine Vest Energy veut construire sur la côte nord, en affirmant qu'aucun projet concret n'a encore été déposé. L'entreprise a néanmoins tenu des rencontres avec au moins 3 ministères et 2 sociétés d'État depuis le début de l'année. Et on parle aussi de cinéma à la une du Devoir de ce 25 août. Coleman et Cumberbatch en désamour à l'affiche de la comédie The Roses. Les 2 vedettes oscarisées se confient sur le rôle d'époux qui en viennent à drôlement se détester. Entre Théo et Ivy, c'est le coup de foudre instantané. Tous 2 frustrés dans leurs emplois respectifs. Elle, chef, lui, architecte. Ils décident de quitter l'Angleterre et de repartir à neuf aux États-Unis. Les voici quelques années plus tard mariés, parents de 2 enfants et épanouis dans leurs professions respectives depuis qu'ils sont leurs propres patrons. Mais voici qu'après la spectaculaire et très publique débâcle d'un projet, Théo perd tout au moment même où le restaurant d'Ivy connaît un succès fulgurant. Entre égocentrisme et mauvaise foi, Olivia Colman et Benedict Cumberbatch, 2 excellents acteurs. Ça, c'est moi qui le dis, mais je suis certaine que François Lévesque, qui les a rencontrés, n'en pense pas moins. Alors, les 2 acteurs se livrent à de piquantes scènes de la vie conjugale dans The Roses. On leur en a parlé en exclusivité. Alors, il est bien chanceux d'avoir rencontré ces 2 acteurs. À la une du Journal de Montréal, le cahier du guide de l'auto, on en parle, entre autres, et la Nissan Leaf 2026 coûtera point de suspension. C'est dans le guide de l'auto autour de... J'ai laissé le guide de l'auto. Ben pas le guide, mais le cahier qu'on trouve dans le Journal de Montréal. Je l'ai laissé sur mon bureau, c'est le fun, hein? Alors, je suis pas capable de vous dire combien la Nissan Leaf 2026 va coûter autour de 45 000, si mon souvenir est bon, là. Mais Mathieu, si vous avez le temps, oui, allez chercher moi le cahier. Hein, on est en direct, c'est assez évident. À la une du Journal de Montréal, on parle aussi du Renault Victor controversé. Zavriev, non seulement l'homme d'affaires est le cauchemar de nombreux locataires, mais il est également visé par une 60aine de constats d'infraction et de recours judiciaires. Le controversé Renault Victor Henry Zavriev a multiplié dans les dernières années les infractions sur les chantiers de construction et a reçu une 60aine de constats, notamment pour des travailleurs non qualifiés et de l'entrave. Donc, c'est pas sur mon bureau, on va trouver, puis on vous reviendra avec la réponse concernant le véhicule et son prix. La Commission de la construction du Québec a dû à plusieurs reprises se tourner vers les tribunaux pour faire suspendre les travaux dans certains immeubles locatifs, révèlent des documents obtenus par le bureau d'enquête du Journal de Montréal. Les informations proviennent de recours judiciaires entrepris par la CCQ, la Commission de la construction du Québec, contre Henry Zavriev et certaines de ses entreprises au Palais de justice de Montréal, travailleurs sans certificat de compétences, manque de collaboration de Zavriev et de certaines de ses entreprises, inspecteurs qui se font refuser l'accès au chantier. La liste de reproches de la CCQ est longue. L'organisme a, entre autres, comme mandat de lutter contre le travail non déclaré dans la construction. Henry Zavriev, de son côté, a fait surtout parler de lui dans les dernières années à cause de ses relations houleuses avec des locataires. En 2023, le journal avait rapporté des témoignages de locataires disant vivre l'enfer depuis le rachat de leur immeuble à Montréal. Il était question de coupures de chauffage, de présence de souris et d'inondations répétées. En février, une de ces entreprises a été condamnée à payer une amende de 216 000 $ car elle avait réduit les services dans une résidence pour personnes âgées en violation d'une ordonnance de la Cour. On écoute Clara Luciani et je vous reviens avec la réponse tant attendue. J'en suis pas tellement sûre, mais enfin, on verra. Je vais vous donner la réponse quand même du prix de la Nissan Leaf. Je fais de la publicité sans le vouloir, mais c'est la une du journal aujourd'hui qui propose à chaque lundi un cahier du guide de l'auto. Et puis, on reviendra aussi avec les titres qui font la une de la Presse Plus d'aujourd'hui.
T'es qu'un grain de poussière sur cette terre. Si on dézoomait le planisphère, je te tiendrai entre mes doigts. Je te tiendrai entre mes doigts. Je ne sais pas si l'histoire retiendra ton nom, ton profil, si tu écriras un livre ou un opéra.
notre atmosphère. C'est une fois par millénaire. C'est une fois par millénaire.
Pour moi, une chanson de Clara Luciani.
Alors, Nissan a annoncé les prix de la troisième génération de la Leaf qui arrivera chez les concessionnaires cet automne. Le prix de départ de la Leaf S Plus 2026 sera de $44,998. À la une de la presse plus maintenant, le Canada se tiendra toujours à vos côtés de passage à Kiev. Mark Carney a réitéré son soutien inébranlable au président Volodymyr Zelensky. « Votre cause est notre cause », a affirmé le premier ministre, adoptant un ton ferme envers Moscou. « Vladimir Poutine ne peut jamais être digne de confiance », a-t-il mis en garde. Paul Journet signe une chronique « Une rentrée sous tension ». En cette rentrée scolaire, deux questions restent en suspens. Quel sera l'impact sur les élèves du resserrement budgétaire de 85 millions exigés du réseau public? Et Bernard Drinville sera-t-il encore ministre de l'Éducation après la fête du travail? Lui-même ne doit pas le savoir. Il est critiqué et ce n'est pas une surprise, écrit Paul Journet. En santé comme en éducation, les besoins semblent toujours supérieurs aux moyens. Mais cette rentrée est un peu différente. Il n'y a pas que le manque de moyens qui est dénoncé. L'incertitude l'est aussi à cause du yo-yo budgétaire. À la fin juin, Québec a annoncé que le budget devait être mieux contrôlé. La raison? Chaque année, les écoles dépensent plus que prévu. C'est insoutenable, concluait le gouvernement caquiste, qui doit éliminer le déficit d'ici 5 ans. Le réseau scolaire rétorquait que s'il respectait le budget déposé en mars, il manquerait au moins 540 millions pour les dépenses requises. En santé, des restrictions semblables avaient été annoncées, puis en partie annulées à cause du tollé. Le milieu scolaire s'est mobilisé à son tour. Cela a fonctionné. À la mi-juillet, 455 millions ont été injectés au public. Ces sommes s'ajoutent au budget déposé en mars. Reste que tout n'est pas revenu à la normale. D'abord, le milieu scolaire dépensera plus que ce qui était prévu en mars, mais moins que ce qui était jugé nécessaire. Traduction, il manque 85 millions. Facteur irritant, ces changements ont été annoncés sans avertissement durant le congé estival, alors que des plans d'embauche avaient déjà été faits. Ensuite, en échange des sommes, les centres de services scolaires doivent faire des gains d'efficacité. À Québec, on ne prétend pas qu'il y ait du gras à couper, mais des économies seraient tout de même possibles, par exemple, en centralisant les communications de différents établissements. Enfin, une certaine confusion persiste sur les exigences du ministère. Un plafond a été instauré pour le nombre de postes, les équivalents à temps plein. La croissance de leur nombre doit être liée à celle du nombre d'élèves. Cela empêchera d'embaucher tout le personnel requis, préviennent des écoles. Certains doutent carrément que les centaines de millions annoncés le mois dernier soient versés en totalité. Québec prétend le contraire. Après plusieurs interviews, je constate que tout le monde n'interprète pas la directive de la même façon. À quelques jours de la rentrée, c'est désolant. « Parlez-vous !» écrit Paul Journet. « Parlez-vous !» Point d'exclamation. Après 3 années en poste, M. Drainville peut commencer à faire un bilan. L'année dernière, il a annoncé le retour du vouvoiement, la fin des cellulaires et un projet de loi pour renforcer la laïcité à l'école. Les dérapages survenus dans plusieurs écoles comme Bedford lui donnent des munitions pour agir, entre autres, contre les congés réservés à des minorités religieuses très pratiquantes. Mais le ministre trouve peu d'experts favorables à l'élargissement de l'interdiction des signes religieux pour le futur personnel de soutien scolaire, alors que le recrutement est déjà ardu. Son gouvernement a également mis sur pied des programmes de tutorat pour les élèves et de mentorat pour les jeunes professeurs. Et il rembourse désormais les premiers 300 $ facturés aux parents pour les projets particuliers au secondaire public. L'embauche d'aide à la classe est le meilleur coup de M. Drainville. Il a réussi à s'entendre avec les syndicats pour que les éducatrices de services de garde puissent compléter leur journée de travail en assistant les enseignants. On en trouve dans la moitié des classes primaires du public. Il a aussi établi un DESS, une maîtrise de courte durée qui permet par exemple à un bachelier en histoire ou en français de devenir enseignant. Cela existait dans les années 1990. On y avait mis fin car il y avait alors un surplus d'enseignants. Les universités préféraient que tous les étudiants s'inscrivent à la formation régulière de 4 ans et les syndicats s'inquiètent de ces diplômes abrégés. Mais entre cela et rien, le choix est facile. Par contre, on les comprend de déplorer le taux élevé d'adultes qui enseignent sans un brevet. 10% selon le ministère et encore plus selon l'ex-vérificatrice générale. Ces nouveaux venus doivent être formés, une tâche de plus pour leur père. Il est difficile de savoir si les enseignants cette année seront plus nombreux que l'année dernière à cause des ajustements méthodologiques sur le nouveau tableau de bord instauré par M. Drainville. Une transparence bienvenue. Mais chose certaine, on remplit un seau percé. Plus du tiers des inscrits à la première année en pédagogie n'obtiendront pas leur brevet et le quart des jeunes enseignants quittent le métier après quelques années. Le taux exact est complexe à évaluer. Le ministre veut casser le discours négatif sur l'éducation. Même s'il faut parler des problèmes, on ne doit pas oublier les nouvelles positives afin de garder la profession attractive, dit-il. Bien d'accord. Mais au terme de mes conversations, je constate que M. Drainville s'est attiré plusieurs ennemis à cause de déclarations mal reçues en début de mandat sur les enseignants, ainsi que de son style qualifié de micro-gestionnaire et du manque allégué de consultation. Les prochains jours seront pour lui incertains, tout comme pour le milieu de l'éducation qui tente de son mieux de s'ajuster aux fluctuations budgétaires. Ce qui se passe à l'école ne devrait pas autant dépendre des cycles économiques. C'est la chronique de Paul Journet. En fait, c'est le premier chapitre ou le premier onglet parce que dans l'autre, il pose la question « Plus d'argent, moins de services ». En éducation, il y a 2 réalités parallèles. D'un côté, celle des grands chiffres, le budget augmente plus vite que le nombre d'élèves. De l'autre, celle du terrain, les ressources manquent. En examinant à la loupe, on comprend mieux pourquoi. Dans l'ensemble, la CAQ se targue d'avoir haussé le budget en éducation de 7 % en moyenne par an depuis 2018. C'est plus que l'inflation et plus que les autres dépenses de l'État. Mais il faut toutefois lire les petits caractères. Si on compare les dépenses effectuées en 2024-2025 en excluant les frais non récurrents comme ceux pour le rattrapage des élèves durant la grève et celles prévues pour 2025-2026, après la bonification estivale, on obtient une hausse de 5,9 %, soit un peu plus que les coûts de système, environ 4,5 %. Or, 2 mesures aux coûts importants n'ont pas ajouté de service. La première, au début de son premier mandat, le gouvernement caquiste a uniformisé et plafonné la taxe scolaire. Le résultat, un manque à gagner pour les écoles. Il a compensé en haussant le budget de la même somme, 1,5 milliard cette année. Une partie de la hausse vient donc de cet ajustement technique. La deuxième, la hausse salariale des enseignants. Ils le méritaient, c'est en fait un rattrapage car ils étaient parmi les moins payés du pays. M. Drainville se réjouit de cette hausse avec raison. Elle facilitera le recrutement et l'embauche de personnel, mais il faut soustraire cette somme pour évaluer ce qui reste pour les services. Le dernier facteur, la population qui change. Depuis 2018, la construction d'écoles a ajouté près de 50 000 places. Durant cette période, la hausse du nombre d'élèves nés au Québec a été de 40 000. Avec les anciens niveaux d'immigration, cela aurait suffi. Ce n'est plus le cas. Près de 48 000 enfants nouveaux arrivants ont été accueillis. Et puis aussi, à la une, on parle toujours d'écoles, de classes, des classes modulaires qui ont de la classe. L'image que l'on s'en fait généralement n'est pas reluisante. Pourtant, leur modernité suscite parfois la convoitise. Alors, c'est à lire un dossier de Mélanie Marquis dans la Presse Plus d'aujourd'hui. L'été n'est pas fini, à venir une chanson qui nous met dans cette ambiance estivale et on aura la chronique Économie en compagnie de Michel Potvin.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
J'aimerais faire de la bicyclette avec toi du matin jusqu'au soir. Oui, j'aimerais faire de la bicyclette pour sentir mes pieds quitter le sol. Oh, yeah, nanana, bicyclette avec toi du matin jusqu'au soir. Oh, yeah, nanana, mes mains en forme de jumelles. Derrière, tout le monde tourne à selle. Faufile-toi dans le trafic, na. Oh, yeah, nanana, n'amène que l'essentiel. Saut de la culture, aucun stress. Le lac nous appartient, fauna. Oh, yeah, nanana. Je te suivrai au bout du monde. Gagner le Tour de France. J'aimerais faire de la bicyclette avec toi du matin jusqu'au soir. Oh, j'aimerais faire de la bicyclette avec toi. Il ne m'ennuie pas de montagne assez haut. Oh, yeah, nanana. Bicyclette avec toi sous la lune. Peu importe la direction. Mais ton sourire m'amène ailleurs comme Marjo. Quand sur les cornes de mon guidon tu es assise, non. J'aimerais faire de la bicyclette avec toi du matin jusqu'au soir. Oh, j'aimerais faire de la bicyclette pour sentir mes pieds quitter le sol. Oh, et nanana, bicyclette avec toi. Avec toi du matin jusqu'au soir. Oh, et nanana, bicyclette pour sentir mes pieds quitter le sol. Oh, j'aimerais faire de la bicyclette avec toi du matin jusqu'au soir. Oh, j'aimerais faire de la bicyclette pour sentir mes pieds quitter le sol. Oh, et nanana.
Qualité Motel, en compagnie de Mike Clay, qui chantait « Bicyclette ».
Merci, Mathieu. Chronique économie avec Michel Potvin. Bonjour, Michel.
Bonjour, Hélène.
Passe un bel été, Michel. Merci beaucoup. Pardon? Passe un bel été.
Oui, un bel été, un petit peu de voyage. On profite du beau temps.
Oui, du beau temps chaud, chaud.
C'est ça.
Alors, Michel, exceptionnellement, vous faites votre chronique en ce lundi, parce qu'habituellement, on vous retrouve le mardi depuis quelques temps. Rendez-vous à ne pas manquer les mardis à 10 heures. Mais pour cette semaine, vous êtes là et on vous en remercie. Michel, vous parlez d'abord de la politique commerciale américaine qui attire encore notre attention.
Oui, c'est le sujet de l'année, je dirais.
Oui.
quelques nouvelles là, qui illustrent, dont je voulais vous parler, qui illustrent les effets des tarifs américains sur nos économies. En fin de la semaine dernière, le premier ministre Carney a réduit ou a enlevé les tarifs canadiens imposés sur certaines importations américaines. Ces tarifs-là avaient été imposés en mesure de représailles suite aux tarifs américains de 35% décrétés par le président Trump. Ces tarifs-là américains étaient sur les biens qui étaient qui étaient non certifiés dans l'accord Canada-États-Unis-Mexique, donc l'accord de libre-échange qu'on a. Et ça ne touchait pas une grosse partie des biens qu'on exportait vers les États-Unis parce que la plupart des biens sont certifiés dans cet échange-là. Les représailles canadiennes de l'époque étaient sur tous les biens importés des États-Unis. Alors, ce que fait M. Carney, c'est qu'il a restreint la portée des tarifs de représailles sur les biens qui ne sont pas certifiés dans l'accord de libre-échange qu'on a avec les États-Unis. Donc, on imite, si vous voulez, là, ce que les Américains faisaient.
Et est-ce que c'est une preuve de bonne foi pour accélérer les négociations avec les États-Unis?
Probablement. Là, on espère toujours avoir une meilleure entente avec les États-Unis. Le 35%, bon, c'est pas sur tous les biens, mais il faut pas oublier qu'on a des tarifs de 50% sur l'acier et l'aluminium. Là, on pourra en reparler tout à l'heure un peu plus longuement. Donc, on espère avoir une meilleure entente. Et puis, si les consommateurs, souvent, on essaye de faire attention de ne pas acheter trop américain, le gouvernement fédéral, lui, continue d'acheter américain, par exemple. Alors, il y avait un article dans la presse aujourd'hui qui faisait état que le gouvernement fédéral a accordé à peu près 1 million de dollars en contrat à des entreprises américaines.
Un million ou un milliard?
Un milliard, ouais. Non, un milliard. Depuis que le président... Ouais, un million, ça n'aurait pas été beaucoup. C'est beaucoup pour une personne, mais pas pour un gouvernement. Plus d'un milliard depuis que Trump est en poste à la Maison-Blanche en janvier. Ces contrats-là, c'est surtout relié à la défense. Donc, notre industrie militaire n'est pas aussi développée que celle des États-Unis, puis on n'a peut-être pas le choix. Puis ce qui se passe encore, je reviens sur l'accord libre-échange, la CEUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, c'est que toutes les parties à l'accord doivent ouvrir certains marchés publics. Ce qu'on entend par marché public, ce sont des contrats octroyés par les gouvernements. Donc, on doit ouvrir ces marchés-là à des fournisseurs de l'autre pays. Donc, on ne peut pas juste on considère plus les entreprises américaines, par exemple, dans tel ou tel octroi de contrat. Aux États-Unis, ils ont voté une loi qui permet de le faire, le fameux Buy American Act, qui avait été voté pendant la présidence Biden. Ça donne un traitement préférentiel aux entreprises nationales, donc les entreprises américaines, dans l'octroi des contrats des gouvernements américains, parce que les États ou le gouvernement fédéral. Au Canada, on n'a pas de Buy Canadian Act qui permettrait de favoriser les entreprises canadiennes, mais je dois dire qu'on commence à y songer là, du côté du gouvernement fédéral, ce qui serait peut-être une façon d'encourager nos entreprises puis de développer peut-être un peu plus notre industrie militaire, quoique c'est pas notre industrie favorite, mais avec la géopolitique de nos jours, on n'a peut-être pas le choix.
Et il n'y a pas que des perdants de la guerre commerciale du côté canadien.
Non, il y avait un petit article intéressant, c'était-tu dans la presse ou dans... où j'ai vu ça, sur le site de Radio-Canada, qui parlait d'une compagnie qui s'appelle Ideal Can, là, pour canne de conserve. Comment elle profite des tarifs? Bien, comme je disais tout à l'heure, il y a des tarifs américains de 50% sur les exportations canadiennes d'acier et d'aluminium vers les États-Unis. Puis on a, pour contourner l'emprise de l'accord de libre-échange, on a invoqué la sécurité nationale. Alors on dit, bon, on impose ces tarifs-là pour la sécurité nationale, ce qui est prévu dans l'accord. Des fois, il y a peut-être la définition de sécurité nationale qui est un peu élastique, mais c'est ce qu'on a invoqué. Puis une des conséquences de ces tarifs-là, c'est que le prix des cannes de conserve qui sont faites en acier ou peut-être en aluminium a augmenté beaucoup au Canada. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre acier, notre aluminium est exporté aux États-Unis, il est tarifé à 50%, on le traite là-bas, puis nous, on le réimporte sous forme de boîte de conserve. Je ne sais pas si canne, c'est le bon mot.
Boîte de conserve, c'est mieux, oui.
Oui, c'est ça, de boîte de conserve. Donc, ces boîtes de conserve-là sont composées de notre acier, mais parce qu'elles ont été fabriquées aux États-Unis, l'acier est tarifé à 50%. Alors, là, il y a un fabricant québécois, Ideal Can, qui prévoit ouvrir deux usines en Ontario pour produire des boîtes de conserve avec de l'acier canadien. En janvier, il va y avoir une usine dans la région de Windsor. Puis pourquoi Windsor? On se rapproche de compagnies qui produisent les boîtes de conserve, donc qui sont surtout en Ontario. Alors, dans la région de Windsor, il va y avoir une première usine avec 6 chaînes de montage qui vont lui permettre de produire 6 différents formats. Puis on pense que la construction va s'étendre sur 12 ans puis coûter environ 100 millions de dollars. Donc, un investissement important et qui va créer des emplois ici. Elle va pouvoir produire 1,2 milliard de boîtes de conserve annuellement et elle en produit actuellement déjà 800 à une usine québécoise. Donc, ça va faire 2 milliards. Ça semble beaucoup, mais juste pour vous donner une idée, aux États-Unis, c'est plus de 20 milliards qu'on produit. Donc, mais c'est quand même, ils vont être produits au Canada et vont coûter moins cher. Le premier ministre Ford, lui, est content parce que d'avoir une usine, ça va créer une centaine d'emplois. Puis la région de Windsor, là, qui est tout proche de la frontière, juste de l'autre côté du pont qui mène à Détroit, c'est tout le secteur de l'automobile qui est là. Ça a été durement touché par la guerre commerciale. C'était une des régions qui avait un des taux de chômage les plus élevés au pays. Ça dépassait les 10% depuis le printemps. Donc, bon, une centaine d'emplois, certainement que ça ne compense pas pour tous les emplois perdus, mais c'est quand même une bonne nouvelle pour
l'Ontario.
Pour l'Ontario et Windsor. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que les tarifs, là, puis tout ça, c'est à cause des fameux tarifs de 50% sur l'acier. Il y a un réaménagement des chaînes d'approvisionnement. Avant, les compagnies ontariennes qui produisaient des aliments en conserve s'approvisionnaient aux États-Unis, mais maintenant, on va commencer à acheter plus canadien. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais étant donné les tarifs, c'est probablement une bonne chose, mais probablement qu'on aurait aimé moins de tarifs parce que ça, aux États-Unis, il y a une raison pourquoi on achetait nos boîtes de conserve-là, c'est qu'ils produisaient à moindre coût parce qu'ils ont un beaucoup plus grand volume puis ils bénéficient d'économies d'échelle qui permettent de produire à faible coût. Mais là, c'était plus vrai avec les tarifs de 50% puis on rapatrie une partie de la production au Canada.
On n'a pas fini d'en parler, hein, des tarifs, d'en entendre parler.
Ben, c'est ça. Ça va durer jusqu'à ce qu'on change peut-être de président, ou peut-être aux élections de mi-mandat. Il y a certains tarifs qui sont contestés en cours, parce que le président, il y a quand même des lois aux États-Unis, puis il s'est abrogé beaucoup de pouvoir pour imposer ses tarifs de façon unilatérale, sans passer par le Congrès. Il y a des poursuites, mais c'est pas encore réglé. Là,
ouais.
Parce que les poursuites disent, mais le président peut pas faire ça, il faut que ça soit voté au Congrès et tout. Puis lui, il fonctionne par décret trop souvent.
Alors, voilà pour votre première chronique de la rentrée 2025. Et puis j'espère vous retrouver mardi prochain. Oui, ça va vite.
Oui.
Ah oui, ben oui, mardi, prochain. Ça va être le lendemain de la longue fin de semaine, parce qu'on est déjà en congé lundi. Au plaisir, Michel. Merci.
À la semaine prochaine. Au revoir.
A coulé à la feria de Tolède. La fille qui dansait m'était montée à la tête. Quand en banderio m'a dit l'ami, reste calme. Car au contorero, si tu regardes sa femme,
Mais elle s'avance vers moi et laisse tomber sa rose avec un billet qui propose un rendez-vous à l'hacienda. C'était enlacé sous l'oranger, mais la duenia, donc c'était le métier, crier vengeance sous arène. Le matador trompé surgit de l'ombre et s'avance. Moi sur mon oranger, j'essaie de faire l'orange. J'entends mon cœur qui bat. L'homme, tu vas payer, dit-il, voici l'estocade. Mes picadors sont prêts et mon œil noir te regarde. Et c'est depuis ce jour qu'un torero me condamne à balayer sa cour pour l'avoir faite à sa femme. J'entends mon cœur qui bat au rythme de ses pas.
Et voilà, je l'ai dans la tête jusqu'à la semaine prochaine, probablement. Je vous dessine.
Oui, c'est comme une chanson velcro. Ça nous reste en tête longtemps, longtemps, mais les chansons de Joe Dassin sont tellement irrésistibles. En fait, il en a fait tellement de succès, une voix magnifique. Et c'est la semaine dernière, le 20 août, qu'on a souligné le 45e anniversaire, triste anniversaire de sa mort. Il est mort à 41 ans seulement, le 20 août 1980. Alors, dans la presse, c'était hier, on a fait une belle rencontre avec Paul Baillargeon, que vous connaissez, et c'est dans le cadre de textes publiés l'été, cet été. Les journalistes de la Presse Plus passent chaque semaine un moment en terrasse avec une personnalité pour une discussion conviviale. Et Luc Boulanger, journaliste bien connu, qui couvre la plupart du temps le théâtre, s'est attablé avec Paul Baillargeon pour parler de la vieillesse, de la sagesse et de son nouveau livre, illustré d'une centaine de ses dessins. Paul Baillargeon a atteint la fin de l'après-midi de sa vie. La cinéaste et comédienne vient d'avoir 80 ans. Loin des plateaux et des studios, elle habite dans une résidence pour aînés flambant neuve, à Saint-Amable, en Montérégie. Seule dans sa chambre lumineuse, au bout d'un long corridor, la vieille dame s'adonne au dessin, à la lecture, et elle joue de la trompette. « Ça ne dérange pas les autres résidents ?» demande M. Boulanger. « Non, je ne crois pas. Je suis dans un monde que je ne fréquentais pas avant. Or, malgré ma maladie, je vis de belles années. Je n'ai pas choisi d'être ici. J'ai été chanceuse de me trouver dans une résidence vaste, lumineuse. » L'endroit fait partie d'un organisme public géré par le CI3S ou le CIS et est inspiré d'un modèle scandinave. L'après-midi de la vie, pour parler de la vieillesse, c'est une allégorie de Carl Jung que Paul Baillargeon a lue dans sa jeunesse. Selon Jung, les aînés ont tendance à développer leur vie intérieure, car l'agitation du monde extérieur devient moins attrayante avec le temps. Atteinte d'une maladie dégénérative, la dystrophie musculaire, Paul Baillargeon est désormais rivé à un fauteuil roulant. « Ça fait déjà quelques années que je ne marche plus. J'ai arrêté d'être une actrice, de travailler, mais j'essaie de développer ma vie intérieure, de ne pas rester à la surface des choses. C'est fou, mais je me sens libre dans ma chaise roulante, même si c'est dur parfois. Sa voix est toujours douce, son débit est lent, hésitant, ses yeux sont fatigués aussi. Mais l'artiste est toujours engagé dans la cité. » Elle l'observe de loin, à travers l'écran de son portable, dans sa chambre, aux grandes fenêtres, avec ses dessins et photos accrochés au mur. Ce qui la révolte ces jours-ci, l'apathie des pays riches devant le génocide à Gaza. Je suis indignée et triste de voir ce qui se passe à Gaza. On trouve ça loin et compliqué. On regarde ailleurs. Non, je n'accepte pas ça. Réveillons-nous. Au lendemain de la mort de Pierre Foglia, qu'elle a connu à Frélisburg dans les années 1990, Paul Baillargeon a publié une photo d'elle avec le chroniqueur et une citation de Foglia. « Pas de risque, pas d'artiste. Je suis habituée à vivre dans le risque. Je ne peux pas changer. De toute façon, on ne change pas. On peut s'améliorer, se calmer un peu, mais fondamentalement, on reste les mêmes. » On lui dit que son parcours est une suite de prises de risques. Depuis son départ fracassant de l'École nationale de théâtre en 1968, jusqu'à aujourd'hui, avec son plus récent livre, Paul Baillargeon faisait partie de la classe contestataire qui a quitté l'école en bloc au début de la troisième année pour protester contre le programme scolaire, un geste qui a inspiré la naissance du grand cirque ordinaire. « Tout ce que j'avais, c'était mon désir », répond-elle. « Il faut aller vers son désir. Parfois, on est dans le tourbillon de la vie. On nage, on rame. C'est dur, mais il faut s'écouter. J'ai eu la chance de vivre à une époque où les femmes bougeaient. Je pouvais suivre la vague, même si j'ai payé cher. Après la sortie du film « La cuisine rouge », on m'a étiquetée féministe radicale. Sa liberté créatrice s'exprime désormais par le dessin. Sa mère, qui ne l'aimait pas, lui avait dit enfant qu'elle ne savait pas dessiner. Or, cet été, Baillargeon publie un livre avec une centaine de ses dessins. Dans sa préface à l'ouvrage, la comédienne Anne-Marie Cadieux écrit que Paul Baillargeon est son idole et une icône. Elle était contestataire, artiste rebelle et radicale, militante féministe, femme révoltée, engagée, indignée, courageuse et libre. À l'instar de Marguerite Yourcenar, Baillargeon estime que l'enfance et la vieillesse sont les deux états les plus profonds que nous sommes autorisés à vivre. On lui rappelle cette citation de Yourcenar qu'elle a publiée sur sa page Facebook. « Les yeux de l'enfant et les yeux de la vieille dame regardent avec la même franchise tranquille. » C'est tellement vrai. J'ai une longue vie derrière moi. À mon âge, on est directement dans son enfance. J'écris dans mon livre que l'enfance est notre vrai pays, notre seul pays. On en sort, mais on y revient rapidement. Et comme pour son pays, on ne choisit pas son enfance. Évidemment, lorsqu'il a gagné un Oscar pour son rôle secondaire dans le film Oppenheimer, l'acteur Robert Downey Jr. a dit dans son discours « Je veux remercier ma terrible enfance ». Son enfance lui a permis de devenir l'artiste qu'il est. À 80 ans, Paul Baillargeon peut désormais remercier son enfance avec toute la sagesse de sa vieillesse. Alors, si ça vous intéresse, le livre de Paul Baillargeon s'intitule « Cahiers » au pluriel et il est publié aux éditions Cardinal.
Le show business, c'est un autobus dans un habit de satin. Un beau matin, le conducteur t'arrête et te demande là. Y'a rien d'espérer de plus, tu payes ta place, t'ouvres tes oreilles et tu te souhaites le meilleur. Et ça quand ça vient. T'es déjà mort. Et quand tu te réveilles, y'a des cloches partout, c'est bourré d'étoiles qui te font la vie et qui te disent t'es un ami, ça vient, ça. T'es marqué pour toute ta vie. Et quand tu t'endors surpris.
show business. Dans l'autobus du show business, il y a quelques bains en or. Un beau matin, le conducteur dit tout le monde change de bord. Et ça quand ça vient, ça c'est le plus beau moment de ta vie. Quand c'est à ton tour d'être le meilleur, le plus grand, le plus beau, le plus fin. Et quand tu te réveilles, demain on chante à Valda.
Jean-Pierre Ferland, Show Business.
Les ministres Christian Dubé et Sonia Lebel témoigneront cette semaine à la commission Galant, où ils seront précédés par l'ex-ministre Éric Kerr, dont la venue est attendue dès mardi, demain. C'est ce qu'écrit Vincent Larrain dans la presse. S'il était acquis que l'ex-ministre de la cybersécurité et du numérique, Éric Kerr, serait appelé à donner sa version des faits du fiasco Saclic, qui lui a coûté son poste, les témoignages des deux autres ministres étaient moins certains, particulièrement dans le cas du ministre de la Santé, Christian Dubé, dont le nom est à peine ressorti durant tout ce scandale. Après s'être intéressé aux acteurs du ministère des Transports, la commission Galant se penchera pour la semaine à venir sur le rôle du Conseil du Trésor, dont les convocations envoyées à Christian Dubé et Sonia Lebel, qui l'ont présidé de 2018 à 2020 et de 2020 à aujourd'hui respectivement. Le commissaire Denis Galant verra également défiler devant lui l'ex-PDG de la SAC, Éric Ducharme, qui a occupé le rôle du secrétaire du Conseil du Trésor de 2018 à 2023. La réputation du haut fonctionnaire a été sévèrement entachée par les témoignages de plusieurs vérificateurs internes de la SAC venus raconter son désintérêt pour s'attaquer aux problèmes entourant le virage numérique de la SAC, projet CASA. L'ex-président du Conseil du Trésor dans le gouvernement libéral de Philippe Couillard, Pierre Moreau, doit aussi être entendu. C'est bon, cette musique, les Beastie Boys. Merci, Mathieu. À venir, une entrevue avec Éric Jean, l'homme de théâtre, qui va nous parler de sa plus récente co-création, Fan. Restez là.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Laisse tomber les âmes sans que ce soit voulu. Alors il reste un peu. Un ou deux jours de plus. Comme des chiens errants qui ont trouvé un toit. Et pour la nuit, ils dorment auprès des deux amants. Mais les moments parfaits repartent au petit jour. Car rien de moins certain que les tristes humains. Parfait ne reviennent jamais. Chien parfait de l'amour ne reviennent jamais. Mais si parfois deux personnes un peu seules laisse tomber les larmes sans que ce soit voulu. Alors il reste un peu, un ou deux jours de plus. Alors il reste un peu, un ou deux jours de plus. Jour, car rien de moins certain que les tristes humains.
Parfait, une chanson de Jean Leloup.
À partir du 27 août, on pourra voir à la salle Fred Barry du théâtre Denise Pelletier la pièce Faon, F-A-O-N, une fable, paraît-il. En tout cas, on va en savoir plus grâce à son co-créateur et metteur en scène, Éric Jean. Bonjour, Éric.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation un petit peu à la dernière minute. Mais
ça me fait plaisir.
Est-ce que vous êtes bon? Je pose une question un petit peu en dehors de ce que je voulais dire, là, mais dans l'improvisation, vous, comment vous vous comportez? Dans
très
les.
Bien.
Oui?
Oui, très bien, très à l'aise.
Le risque aussi.
Pas mal.
Ah oui, vous en avez fait
pas
mal. Dans le fait aussi de prendre des risques.
Oui, ah oui, moi je trouve le risque. Je trouve que c'est sain, le risque.
Je viens justement de lire, je ne sais pas si vous l'avez lu hier, cette rencontre entre Luc Boulanger et Paul Baillargeon qui parle de l'importance du risque, qui cite aussi Foglia qui dit que si on ne risque pas, ben on n'est pas vraiment un artiste. Mais là, je c'est pas exactement ce qu'il dit, mais ça ressemble à ça. En tout cas, c'est dans l'esprit.
Ben, je suis assez d'accord avec ça. J'ai pas lu l'entretien, mais je vais le lire assurément parce que j'aime beaucoup Paul. Je trouve que c'est une artiste majeure, en fait, qui a fait toutes sortes de choses. Hein. On le sait, du théâtre, du cinéma, elle écrit, maintenant elle peint aussi, elle dessine.
Oui. Elle a donc défoncé des portes aussi.
Oui, absolument. Oui. Elle a pris des risques.
Alors, pas de risque, pas d'artiste, c'était ce que disait Pierre Foglia, la citation que j'ai à peu près bien dite en premier lieu. Oui. Alors, Éric Jean, donc, est-ce que vous êtes à la salle Fred Barry en ce moment?
Non, pas en ce moment, mais j'y vais tout à l'heure. Dans une heure, je serai là-bas.
Bon, Faon, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce?
Ben, Faon, en fait, c'est un projet qui est né du désir de de renouer avec une manière de travailler que j'ai appelée avec un collègue avec qui j'ai travaillé beaucoup, qui s'appelle Pascal Brûlemans, une méthode qui s'appelle écriture vivante. Donc, j'ai réuni des artistes, des acteurs, actrices, concepteurs, conceptrices, une autrice, autour d'une idée. J'avais envie de parler du dilemme d'une mère. Et je me disais, ce serait quoi le plus grand dilemme d'une mère dans une vie? Et en réfléchissant, à un moment donné, je me suis dit, ce serait d'être forcé d'abandonner son enfant. D'abandonner son enfant, pour le protéger. Faut pas que j'oublie cette partie-là de la phrase.
Donc, est-ce que l'actualité des derniers mois vous a inspiré?
Pardon?
Est-ce que l'actualité des derniers mois vous a inspiré?
Elle aurait pu m'inspirer, assurément, mais c'est un spectacle qui a été pensé en 2022-2023, donc qui a tourné dans différentes villes du Québec à partir de l'hiver 23-24. Donc, mais bon, malheureusement, c'est un sujet des enfants séparés de leur mère. C'est un sujet d'actualité depuis bien longtemps. Et encore aujourd'hui, malheureusement. Mais ça, oui, on aurait pu s'inspirer de ce qui se passe en ce moment un peu partout dans le monde, mais c'est pas le cas.
Mais je pense à la petite fille qui a été abandonnée, là, la petite fille de Ville-la-Salle. Et c'est la mère qui a abandonné son enfant, mais c'est pas la seule. Vrai que c'est quelque chose qui peut se passer partout dans le monde. Puis... donc, c'est ce sujet-là que vous abordez. En fait, le plus grand dilemme d'une mère serait d'abandonner son enfant. Est-ce que c'est une pièce dramatique? Parce que le thème est quand même assez grave, sérieux.
Le thème est assez grave, mais on est davantage dans un thriller, un suspense. Une pièce un peu comme un casse-tête, comme on le voit régulièrement au cinéma, où toutes les pièces sont là, mais le spectateur est invité à mettre les pièces ensemble pour dénouer l'histoire ou pour se faire sa propre idée de l'histoire. Bien sûr, nous, on en a une, mais après ça, moi, j'aime bien les spectacles qui nous laissent une part d'interprétation, comme lorsqu'on regarde un tableau, une image, une photo, lorsqu'on va voir un spectacle de danse. Il y a toujours une part d'interprétation. Moi, j'aime ce type de théâtre-là, puis Fan s'inscrit tout à fait dans ce mouvement-là.
Donc, une création qui fait confiance au spectateur, à la spectatrice, mais est-ce qu'on est complètement, largué à la toute fin de la pièce?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. Oh non. Non, non, toutes les ficelles sont attachées. Tout s'attache à la fin. L'histoire est portée par, est racontée, si on peut dire, par trois personnages. Donc, on a trois versions de l'histoire, trois points de vue plutôt de l'histoire. Et là, des fois, on adhère plus à un personnage ou à un autre. On s'associe plus à un personnage ou à un autre devant une œuvre de fiction. C'est souvent le cas. Et donc là, on a trois chemins pour dénouer l'histoire, trois chemins possibles. On peut même suivre les trois chemins en même temps, évidemment. Et on l'a présenté dans plusieurs villes du Québec déjà, et les gens se sentent pas largués du tout. C'est aussi un spectacle, je dirais, qui fait appel à pas mal tous les sens. Il y a quelque chose de très fort visuellement. Les images sont très, très fortes, très puissantes. Je rapporte des propos, là. Je suis quand même modeste. En général, modeste. Je rapporte des propos qu'on m'a dit, donc les images étaient très puissantes. Et aussi, l'environnement sonore est très important. C'est Viviane Audet qui a fait la musique du spectacle. Et il y a aussi des pièces de David Bowie, parce que David Bowie est une figure importante qui est présente tout au long du spectacle. Et il y a même un des acteurs qui interprète deux chansons de David Bowie sur scène.
Lesquelles?
Moon Age Daydream et Starman.
Ouais. Puis est-ce que ça il fait flèche de tout bois dans son interprétation, parce qu'interpréter du David Bowie, c'est quand même quelque chose.
Ah, mais il est excellent, il est extraordinaire. C'est quelque chose. Vous avez bien raison, mais c'est Gabriel Favreau et il a une voix formidable, et une qualité d'interprétation. Parce que c'est bien d'avoir une grande voix, une belle voix. Mais après ça, c'est ce qu'on en fait aussi, évidemment, quand on chante. Et c'est ce qui est formidable, c'est que c'est un acteur qui chante, il va accorder beaucoup d'importance aux mots, à ce qu'il raconte, à ce que souligner trop les choses, mais quand il interprète les mots, quand il dit les paroles, ben c'est pas simplement pour faire pour impressionner de sa belle voix.
Il n'y a pas d'esbrouf.
Il raconte
quelque chose. Alors, Éric Jean, vous avez parlé de 3 points de vue, mais il y a quand même 4 acteurs, actrices sur scène. Ouais. Gabriel Favreau, vous l'avez nommé, Agathe Langteau, Marie-Ève Perron et Sacha Samar.
Oui, Marie-Ève Perron joue le rôle de la mère. Originalement, le personnage a été créé par Viviane Audet, qui a dû ensuite se retirer du spectacle parce que sa carrière de musicienne, de compositrice, a explosé, heureusement.
Oui, son album de musique au piano là, sensation. Là.
Oui, c'est ça. Puis là, en plus, elle participe à une émission, mm-hmm. donc piano public, tout ça. Donc, c'est Marie-Ève Perron qui incarne la mère. Et les 3 points de vue sont les autres points de vue que celui de la mère, c'est-à-dire le fils abandonné, devenu adulte. Ensuite, le demi-frère du fils abandonné et une femme qui habite, qui est recluse, qui habite dans les bois, une chasseuse qui va recueillir cette femme-là qui est en fuite. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la mère est forcée, en quelque sorte, d'abandonner son fils pour le protéger, pour le sortir d'un climat familial toxique. Mm-hmm. Elle est avec un homme violent, elle s'enfuit avec son fils et il se cache dans un petit appartement et un jour, l'homme violent les retrouve et c'est à ce moment-là que la mère dit au garçon « Soit tu viens avec moi et tu fuis, tu es une proie pour plusieurs jours, plusieurs mois, quelques années, peut-être encore, soit tu ne viens pas avec moi et tu te refais une nouvelle vie en changeant d'identité. »
Mais l'abandon semble, un thème quand même assez, je sais pas, populaire de ces temps-ci. Là, je viens d'avoir l'espèce de flash de la télésérie Empathie qui commence par un abandon.
Ouais,
le personnage de Florence Lompré est abandonné, trouvé même dans une poubelle.
Oui, absolument. Vous avez raison. Oui, absolument. Oui. Tout à fait. Très excellente série, d'ailleurs. Très bien écrite, très bien jouée.
Extraordinaire, oui. Alors, oui. La pièce semble bien fonctionner. Je ne savais pas que ça roulait, que ça avait été présenté là, depuis quelques années. Donc, c'est une reprise à la salle Fred Barry ou c'est la première fois que vous allez présenter?
C'est la première fois à Montréal.
OK, c'est une première
fois
à Montréal.
On le présente à Montréal. Puis, on le présente 10 soirs seulement. Puis, je crois qu'il reste des billets seulement pour cette semaine, puis le début de la semaine prochaine. Après, c'est complet.
Mm-hmm. Ça doit s'envoler vite quand même.
Oui. Oui, les billets se sont envolés très vite.
Et Éric Jean, vous avez donc créé cette pièce avec Marie-Christine Léhu. Je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille.
Très bien.
Est une comédienne, mais qui est aussi une autrice. Est-ce que c'était votre première collaboration ensemble?
On avait déjà fait un laboratoire ensemble. Donc, des explorations autour de courts textes. Mais c'est la première fois vraiment qu'on travaille ensemble sur un spectacle. Et pour cette première fois-là, on a travaillé sur 2 spectacles, en fait. On a travaillé sur Fan. Donc, c'est elle qui a écrit le texte à partir des improvisations que j'ai dirigées. Mm-hmm. Et aussi, elle a fait un texte vraiment librement inspiré du conte Bambi de Félix Salten. Et ça, c'est un spectacle qui s'appelle Bambi hors champ. Et c'est quand on va en tournée, parce que les deux mondes, on est davantage une compagnie de tournée, eh bien, on s'installe dans une ville et on installe le décor. Le soir, on joue Fan pour les ados et les adultes. Et le lendemain matin, on joue Bambi hors champ pour les enfants.
Donc, Bambi version adulte et Bambi pour les jeunes.
Oui, en fait, c'est les thèmes qui recoupent les 2 spectacles qui tissent le lien, finalement. Mm-hmm. C'est 2 spectacles qui ont comme thème, un des thèmes principaux, la survie. Comment survivre dans un climat austère ou précaire, mm-hmm. ou lorsqu'on perd notre mère, finalement. Parce qu'on se souvient du conte Bambi, c'est ce qui arrive à Bambi, sa mère se fait tuer par un chasseur.
Oui, il se retrouve orphelin de sa mère. C'est le texte de Fan va être publié, d'ailleurs, le 28 août, hein, c'est ce que j'ai lu.
Oui, cette semaine, jeudi, donc, c'est le lancement. Oui, on est très heureux de ça. Donc, c'est Atelier 10 qui a décidé de publier le texte et ça va être très beau, très bel ouvrage avec des photos de la production dedans. Donc, on est très heureux.
Est-ce que vous suggérez de lire la pièce pour quelqu'un qui verra la pièce après le 27 août? Lire le texte avant ou après l'avoir vu?
Non, comme c'est un peu une sorte d'enquête.
Ouais, c'est vrai, un thriller.
Avec les personnages, oui. Fait que je pense que c'est préférable de se procurer la pièce après, peut-être, et de la relire après, si on veut. Parce que c'est le genre de spectacle qui, je dirais que c'est agréable de le voir plus d'une fois, parce que une fois qu'on a compris tout le casse-tête, ben après ça, le revoir, on fait « Ah ben oui, on avait cet indice-là, on avait aussi cet indice-là et cet indice-là ». Donc, de pouvoir lire le texte après, je pense que ça peut être très intéressant.
Vous parlez de suspense, de thriller, et dans le communiqué, on présente Fan comme une fable contemporaine sur la résilience et la mémoire.
Oui, exactement. Ben oui, parce que la résilience, c'est-à-dire qu'on suit tout le long l'enfant devenu adulte, donc qui a dû être résilient devant cette situation-là où il a perdu sa mère, son père aussi, donc il a été éloigné de ses deux parents. Il a pas eu le choix d'être résilient. C'est la même chose pour le demi-frère. En fait, cette femme-là, le personnage de Marie-Ève est sa belle-mère, donc il est tout à coup séparé de cette femme-là qu'il admirait. Donc, lui aussi, il va devenir photographe et tout ça. Et à travers ses photographies, son œuvre photographique, il va raconter son enfance, son histoire. Mais lui aussi, il a dû être résilient dans tout ça. Même chose pour la mère. Elle n'a pas eu le choix d'avoir une sorte de résilience. L'autre mot que vous avez nommé, c'était une fable sur la résilience. C'est la
mémoire.
La mémoire.
Vous avez un trou de mémoire.
Justement, oui. J'avais un blanc de mémoire. Donc, sur la mémoire, oui, parce que c'est on raconte le passé, on raconte ce qu'ils ont retenu, ce que leur mémoire, ce que leur tête, leur corps ont enregistré comme souvenir, ce qui s'est inscrit en eux. Et donc, on est beaucoup sur la mémoire, sur ce qui reste de nos souvenirs, de notre enfance, et jusqu'à quel point, parfois, notre mémoire se mélange à notre imaginaire aussi. Parce que, hein, on le sait, des fois, on a des souvenirs, mais tout à coup, on partage ce souvenir-là avec quelqu'un qui était au même endroit, puis la personne nous dit, ben voyons, c'est pas du tout comme ça s'est passé.
C'est vrai. Donc, la mémoire peut nous jouer des tours.
Oui, c'est ça, mais c'est ce qui est agréable aussi.
Oui. Alors, bien, c'est très tentant d'aller jusqu'à la salle Fred Barry au Théâtre Denis Pelletier, parce qu'il y en a qui trouvent que c'est loin, étant donné que c'est dans l'est de la ville, mais c'est tellement un beau théâtre. Et la petite salle Fred Barry, c'est bien parce qu'on est tout près des acteurs. On entre dans l'histoire encore avec plus de facilité. J'invite les auditeurs et auditrices à se rendre à la salle Fred Barry à partir du 27 août et ce jusqu'au 13 septembre pour découvrir Fan, une pièce qu'a créée Éric Jean ainsi que Marie-Christine Léu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous encore une fois. On va se laisser avec une des chansons de David Bowie qu'on peut entendre dans votre pièce Moon Age Daydream.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au revoir.
David Bowie, sa pièce Moon Age Daydream.
Oui, une chanson interprétée par Gabriel Favreau de façon superbe, paraît-il, selon ce que nous a dit Éric Jean, dans la pièce Fan qui prend l'affiche de la salle Fred Barry, je vous le rappelle, le 27 août. Si l'école servait vraiment les jeunes alors qu'elle amorce sa première semaine comme cégepienne, l'autrice revient sur ses années de secondaire et relève ce qu'elle considère que les jeunes souhaitent pour une vie scolaire réussie. C'est dans la section dialogue de la presse plus Alexandra Côté qui signe le texte, son opinion. « J'aime apprendre, j'aime comprendre, pourtant je n'aime pas l'école telle qu'elle est aujourd'hui. » Un classique, direz-vous. Elle n'écoute pas en classe, elle ne participe pas, elle ne fait pas l'effort d'apprendre par cœur. C'est là que vous vous trompez. J'étais l'exemple parfait de l'élève modèle du début de mon primaire à la fin de mon secondaire. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Comme bon nombre d'élèves autour de moi, l'école m'a échappé. La faute à qui? On pourrait blâmer les enseignants qui ont jalonné mon parcours ou les cahiers d'exercices bâtis pour être soporifiques. Pourtant, lorsque j'en discute avec les jeunes de mon âge, ce qui ressort, c'est le programme. Les jeunes comprennent l'importance des mathématiques, du français, de l'anglais, des sciences. Ce qui nous échappe, c'est le manque de place faite au concret et aux essentiels de la vie adulte. Nous avons des cours de sciences où on nous remplit le crâne de formules, d'autres où on découvre véritablement le fonctionnement de notre univers, des cours d'histoire où nous apprenons à étudier, d'autres où nous devons nous débrouiller avec le par cœur. Le problème, c'est que tout repose sur les épaules des enseignants. Comme dans tous les métiers, certains sont exceptionnels et d'autres sont, disons, moins impliqués. La qualité de notre éducation et notre niveau de préparation à la vie ne devrait pas être une question de chance. Nous en venons à la conclusion, nous, les jeunes, classe si peu écoutée de la société, que les programmes se doivent d'être revus. Nous manquons d'éducation à la sexualité. Ce n'est pas un cours ou deux de culture et citoyenneté québécoise par 9 jours servant aussi à couvrir une myriade de sujets tout aussi différents que délicats qui vont nous permettre de développer une réelle compréhension de ce sujet si complexe. Nous manquons de notions économiques. 1 ou 2 cours d'éducation financière par 9 jours sont insuffisants. Je serais bien embêtée de devoir m'ouvrir un CELI toute seule. Nous devons avoir certaines notions pour distinguer le vrai du faux et choisir correctement nos sources d'informations. Nous devons être instruits sur l'intelligence artificielle parce que tout change tellement vite et que même nous, premiers touchés, sommes perdus. En laissant autant de morceaux de notre éducation au hasard, notre gouvernement fait le pari que nos parents nous éduqueront sur d'innombrables questions, dont la démocratie. Pourtant, seulement 67 % de la population a voté aux dernières élections fédérales. Si la proportion est la même chez les parents, 33 % des élèves devront s'éduquer eux-mêmes à l'importance de la démocratie. Et c'est peut-être bien plus. Voter ne veut pas dire croire en l'importance de ce devoir citoyen. Nous avons besoin de comprendre nos institutions pour leur faire confiance. Comment éprouver le désir de s'informer sur tous ces sujets alors que nous sommes mis de côté? La démocratie que vous tentez de nous vendre semble plutôt vous appartenir. Vous la gardez jalousement. Plus tard, ma petite, tu vas faire de grandes choses. Là, laisse les adultes s'en occuper. Vous gagneriez à tendre l'oreille. Nous sommes intéressés, motivés, passionnés. Nos idées sont nouvelles et ancrées dans le présent. J'appelle donc à une réforme pas comme l'une des multiples réformes partisanes que nous avons vues en éducation conduites pour des électorats spécifiques à séduire ou des idéologies à promouvoir chez les futures générations. Non, j'appelle à une réforme conduite en étroit partenariat avec les jeunes pour les jeunes afin que les priorités en éducation reviennent à la bonne place. Je poursuivrai des études supérieures. Ce n'est pas parce que j'aime l'école, mais parce que j'aime apprendre et comprendre. Ces deux concepts ne devraient pas être séparés. Dès maintenant, l'école doit devenir une institution qui a du sens sans rien laisser au hasard. Là-dessus, bonne rentrée. À demain!